Semble morte et toutes les sirènes d'alarme sonnent l'alerte. Les polices les plus expertes organisent des cellules de crise et se concertent, se conseillent chacune pour savoir comment on se comporte.
La nuit quand les banlieusards sortent,
plus aucune vitrine ouverte. Grands patrons et banquiers sont sous bonne escorte. Politiciens qui, redoutant dégâts et pertes, demandent à l'armée de venir prêter main forte. Et toutes les places sont recouvertes de haut-parleurs qui crachent et puis colportent. Le plan de sécurité est éviter que la panique ne l'emporte.
La nuit quand les banlieusards sortent,
ils suent, ils tremblent, ils courent à toutes jambes. Ils prient même le ciel quand on se rassemble, de peur que ça flambe. Ils se cachent et puis verrouillent leurs portes.
La nuit quand les banlieusards sortent,
ils voudraient qu'on reparte, qu'on les laisse seuls. Ils nous voient, ils s'écartent. Dès qu'on arrive, ils s'agitent vite, tous en fuyant vers leur appart.
La nuit quand les banlieusards sortent,
l'heure est grave quand on arrive. Des familles entières se réfugient à la cave, amènent avec elles juste de quoi survivre, comme l'indiquent les instructions qu'elles reçoivent. Certains s'enivrent et puis écrivent leur testament sur la bouteille qu'ils boivent. D'autres lisent ces livres saints qui aident à tenir et réconfortent.
La nuit quand les banlieusards sortent,
des âmes trop craintives trouvent que les autorités devraient signer la trêve. D'autres se pincent fort la peau et ouvrent les yeux, croyant faire vraiment un mauvais rêve. Certains s'énervent, disent que ça prouve que depuis longtemps il fallait qu'on les achève. Mais tous au fond éprouvent peur, diarrhée et fièvre beaucoup trop fortes.
La nuit quand les banlieusards sortent,
ils suent, ils tremblent, ils courent à toutes jambes. Ils prient même le ciel quand on se rassemble, de peur que ça flambe. Ils se cachent et puis verrouillent leurs portes.
La nuit quand les banlieusards sortent,
ils voudraient qu'on reparte, qu'on les laisse seuls. Ils nous voient, ils s'écartent. Dès qu'on arrive, ils s'agitent vite, tous en fuyant vers leur appart.
Quand les banlieusards sortent,
ça brûle, ça crame, ça tourne au drame,
drame.
Ça sent le crime,
crime.
Et ça sort les armes,
armes.
Et on tue des hommes,
hommes.
Et on voit des flammes,
flammes.
Et des uniformes,
forme.
Donc on plante des lames,
lames.
Ça s'envenime,
nîmes.
Sans état d'âme,
dame.
Et on les allume,
lume.
Sur le bitume,
tume.
Et on les dégomme,
gomme.
Et on les décime,
cime.
Et on les décharne,
charme.
Avec des mines,
mine.
Nous que l'on qualifie de polygame,
nous
que l'on élève au rang de vermine,
nous
que l'on dit fumeur de Marie-Jeanne,
nous
qu'on condamne, emprisonne et puis supprime.
Ah.
Ils suent, ils tremblent, ils courent à toutes jambes. Ils prient même le ciel quand on se rassemble, de peur que ça flambe. Ils se cachent et puis verrouillent leurs portes.
La nuit quand les banlieusards sortent,
ils voudraient qu'on reparte, qu'on les laisse seuls. Ils nous voient, ils s'écartent. Dès qu'on arrive, ils s'agitent vite, tous en fuyant vers leur appart.
La nuit quand les banlieusards sortent. La nuit quand les banlieusards sortent. banlieusards sortent.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend pour la nouvelle année avec Jean-Mathias en face de moi, José au platine qui a un problème avec les souris. Il n'aime pas les souris, ni les rats, ni les mulots, ni les rongeurs de toutes sortes. Mais celui-là, il le déteste encore plus particulièrement. Donc on va voir comment on se débrouille en question technique, et puis ben Michel qui vous parle. Voilà, donc ce soir, nous allons vous parler d'un sujet hautement médiatique, les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ? Donc c'est un livre qui a été édité chez Le Bord de l'eau et qui a été écrit par Thomas Guénolé, donc qui est politologue et enseignant. Voilà, donc c'est Jean-Mathias qui va nous le présenter. Et puis, ben, on répondra donc à cette question angoissante. Les Parisiens sont-ils entourés d'ogres ? Jean-Mathias, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet ouvrage qui est rouge ?
Alors d'abord deux mots sur l'auteur, sur Thomas Guénolé, parce que bon, il y a peut-être certains auditeurs qui le connaissent et qui sont peut-être surpris du choix de ce soir. Alors effectivement, tu l'as dit, il est politologue et enseignant, mais il a aussi en fait une autre casquette, ce jeune homme, parce qu'il n'est pas vieux. Hein, c'est un jeune qui n'en veut. Il a longtemps été chroniqueur aussi sur RMC avec Bourdin. Voilà. Donc c'était il a une
Il n'était pas grosse tête au moins.
Il n'était pas grosse tête. Il était chez avec Bourdin. Donc il a
parce que sinon on va commencer à questionner le choix de tes bouquins.
Il a une surface donc radiophonique. Voilà. Par ailleurs, je continue pour rajouter un petit peu. Il a aussi déjà même s'il n'est pas vieux, il a déjà une certaine expérience dans le domaine politique entre guillemets, dans la mesure où il a été aussi conseiller de Jean-Louis Borloo. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui un profil un petit peu atypique.
Atypique, tu veux dire qu'il est prêt à tout pour monter au sommet ?
Alors ça, c'est plutôt typique. Donc ça, j'allais en parler après. Mais par contre, il est atypique sur le contenu. Parce que, alors, a priori, il n'est pas forcément très sympathique, ni forcément très proche des idées défendues sur cette antenne. Mais,
Et dans cette émission.
Ouais, et dans cette émission en particulier. Moi, je ne suis pas un aficionado de ses chroniques, mais bon, il a été viré là, il n'y a pas très longtemps, par Bourdin, parce que en fait, suite aux attentats du 13 novembre, il a émis l'hypothèse absolument iconoclaste que les services de renseignement français avaient peut-être commis un certain nombre d'erreurs d'évaluation en termes de risque et en termes de passage à l'acte d'un certain nombre de personnes.
Mais ça, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps sur BFM TV. Genre, alors, la police n'a pas été assez loin dans la surveillance.
Oui, alors sauf qu'il a dû le dire de manière un peu plus claire, puisque en fait, il a été blacklisté par le ministère de l'Intérieur, dit-il, dès sa chronique. Et la direction de la radio contactée et son directeur d'antenne et son responsable de rédaction de l'émission où il intervenait a fait en sorte donc de mettre fin à des chroniques qui étaient déjà en place depuis un certain nombre d'années. Heureusement qu'on en a fini avec le RTF, comme tu dis. Donc, alors bon, il a des côtés donc plutôt effectivement lointains, on va dire, par rapport à nous. Bon, j'en viens au bouquin. Moi, le livre, le titre m'accroche, là, Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ? Je regarde, il y a une préface d'Emmanuel Todd. Alors, Emmanuel Todd, qui est un démographe qui, lui aussi, est assez médiatique, médiatisé et en quête de médias.
Emmanuel Todd, qui est devenu célèbre en prédisant la chute de l'Union soviétique à partir de son étude démographique.
Donc, voilà, bon, Emmanuel Todd, on ne va pas parler d'Emmanuel Todd ce soir parce qu'il a juste fait la préface, mais c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup et donc, qui prend risque de dire des conneries, il en dit, ça c'est sûr, mais il dit pas que des conneries, et donc je regarde, effectivement je lis, et puis voilà, je me suis laissé un peu prendre au jeu de la lecture là, et pour tout dire en fait, donc c'est un livre sur les jeunes de banlieue, plus exactement sur le décalage entre les stéréotypes médiatiques, mais pas seulement, qui sont rebattus en permanence sur les 10 jeunes de banlieue. Et donc son propos finalement, c'est d'essayer de prendre ces stéréotypes-là et puis d'essayer de les confronter à une enquête de terrain. Alors, après, moi, je ne suis pas sociologue, ou voilà, donc je ne sais pas si c'est fait exactement dans les règles de l'art. Du point de vue de la réception du bouquin, il était beaucoup critiqué parce que, soi-disant, ce n'était pas assez rigoureux, pas assez approfondi, pas assez objectif, pas assez ceci, pas assez cela. Bon, moi, ce que je sais, mais bon, je ne suis pas le seul dans ce studio, parce que on est tous un peu dans ce cas-là. Ça fait, voilà, une grosse, grosse décennie que j'enseigne maintenant en banlieue parisienne et au-delà. C'est ton cas aussi, c'est le cas de José aussi. Et en tout cas, moi, ça m'a paru suffisamment, suffisamment étayé pour envoyer, pour que ça me parle, pour que je sois d'accord avec un certain nombre de trucs, et même une bonne partie des analyses proposées, et pour que ça m'intéresse. Voilà, parce qu'effectivement, il a aussi, alors, il est efficace dans son écriture, dans son style. Je ne sais pas trop ce que donnent ces chroniques de radio, mais c'est un peu de la même veine. Mais à l'écrit, effectivement, je trouve que voilà, il a le sens de la formule, il a le sens de la polémique, il tape sur des méchants et il le fait bien. Voilà. Alors, il a peut-être des amis qui ne sont pas sympathiques, et puis lui-même, effectivement, a peut-être un avenir compromis selon ses aspirations. Je n'en sais rien, je ne vais pas lui faire de procès d'intention. Mais ce livre est un bon livre. D'après moi, les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ? C'est un bon livre, et puis qui s'attaque à des problèmes, voilà, concrets, voilà, comme la question de la langue des jeunes de banlieue, la question de la consommation des jeunes de banlieue, la question de la sexualité des jeunes de banlieue, la question des options religieuses des jeunes de banlieue, la question de l'antisémitisme des jeunes de banlieue. Et donc l'idée,
et qui questionne un petit peu la construction de l'objet sociologique jeune de banlieue,
bien évidemment,
parce que ça, c'est quand même une...
bien évidemment. Alors, eh ben, on peut peut-être commencer par ça, si vous voulez.
Alors, qu'est-ce qu'un jeune de banlieue ?
Qu'est-ce qu'un jeune de banlieue ? Alors, vous le mettez le jeune de banlieue entre guillemets, bien évidemment. Alors, je vous lis la quatrième, parce que ça vous donne une idée un petit peu du tempo. Alors, allons-y. Donc,
quatrième de couverture du livre de Thomas Guénolé, Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ?
Alors, la quatrième commence comme ça. Donc, le jeune de banlieue, vous mettez des guillemets, bien sûr, c'est l'ogre des temps modernes. Arabe mal rasé, de 13 à 30 ans, vêtu d'un survêtement à capuche, il se promène avec un cocktail Molotov dans une main et un couteau à cran d'arrêt dans l'autre. Il fume du shit dans les cages d'ascenseur, il brûle des voitures. Il gagne sa vie grâce à des trafics et en fraudant les allocations sociales. Sa sexualité consiste à violer les filles en bande dans des caves. Sa spiritualité à écouter des prêches djihadistes de l'islam des banlieues, vous mettez ça entre guillemets également. Dans les caves d'ailleurs aussi, comme les viols collectifs. Il hait la France, l'ordre, et bien sûr, il déteste les Français, comprendre les Blancs, entre guillemets. Il aime le djihad et l'islamisme. Son rêve, partir en Syrie, se battre aux côtés d'Al-Qaïda ou de Daesh, pour ensuite revenir en France, commettre des attentats. Il ne serait donc pas étonnant que les parents, disent bientôt à leurs enfants, entre guillemets, si tu n'es pas sage, le jeune de banlieue, en un mot, viendra te chercher. La réalité est moins spectaculaire, les jeunes de banlieue sont plus d'un million. 98% ne sont ni délinquants ni dans des bandes. L'ascenseur social étant à l'arrêt depuis longtemps, seule une minorité arrive à s'en sortir. Une minorité plus marginale vit de trafic. Une minorité plus marginale encore sombre dans l'intégrisme religieux. Mais pour l'écrasante majorité, la réalité, c'est une galère de jeunes pauvres urbains qui vivotent entre le chômage, la débrouille et les emplois précaires. Alors, ça vous donne un peu l'ambiance de la chose. Bon, en même temps, c'est pas révolutionnaire, évidemment, de poser les choses comme ça. Mais ensuite, il prend le temps, en fait, de creuser, hein, effectivement. Alors, en se prenant un certain nombre de figures connues, bien évidemment. Donc, vous en avez, là, je feuillette le livre, là, en même temps que je vous parle. Voilà, vous avez, par exemple, 10 pages de citations chronologique d'Alain Finkielkraut sur la question du jeune de banlieue. Voilà.
Non, moi, après, je ne sais pas, peut-être que le livre affirme ou confirme mon sentiment, mais le sentiment que j'ai à force de fréquenter des jeunes de banlieue, c'est qu'en fait, ils sont désespérément normaux et conformistes.
Ouais.
Et la plupart du temps, ils rêvent d'un pavillon de banlieue avec une femme, deux, trois enfants, un chien, pas plus de trois enfants, parce qu'après, c'est quand même galère.
Et tu parles d'ailleurs toi-même en tant que jeune de banlieue.
Ouais, des gens de plus, mais ancien jeune.
C'est vrai que le temps passe.
Mais oui, non, mais c'est-à-dire que moi, j'ai lamentablement échoué. J'ai ni pavillon ni chien. Mais
ça va venir.
Mais bon, c'est-à-dire que une fois ou deux, je m'étais quand même dit que le nouveau beauf dessiné par Cabu dans Le Canard Enchaîné, très très fréquemment, plutôt qu'une queue de cheval et des petites lunettes, il aurait dû porter une petite barbe bien taillée, quoi.
Oui.
Dans les banlieues françaises, en tout cas.
Tu peux voir comme ça. Le point étant, c'est qu'effectivement, t'as quand même des petites turbulences qui sont créées par cette espèce d'image du jeune de banlieue qui est quand même surinée à longueur de temps et qui brouille un peu la chose. Et puis le niveau de niveau de vie moyen du jeune de banlieue n'est pas
pavillonnaire.
Il n'est pas pavillonnaire, non, loin de là.
On s'en fout.
Très, très loin
justement,
de là.
C'est un rêve, pour être très fréquemment. Le rêve de la réussite sociale, c'est le pavillon.
Ouais.
Dans tout une banlieue éloignée, avec, tu vois, c'est le pavillon de merde, construit un peu loin, mais dans un coin tranquille.
Il y a plein de gens qui vivent en pavillon.
Oui, ouais, bien sûr, de merde, qui s'écroule à moitié. Donc, tout le monde le sait.
Alors... Pour vous, on continue sur la lecture du livre. Donc, alors, je vous passe évidemment les dix pages de citations de Finkielkraut, hein, parce que ça, c'est un peu au-dessus de mes forces. Mais ça mérite quand même, effectivement, par l'accumulation, d'être cité. Bon, ce qu'il fait, hein, voilà. Donc, en rappelant, voilà, tous les mots dont sont
dont regorge la prose de Finkielkraut.
Voilà. Et alors ensuite, son idée, c'est d'essayer, voilà, d'avoir une petite analyse un peu rhétorique de ça, quoi, de ces 10 pages. Alors, en expliquant que il existe en fait une espèce de recette finalement, de recette de cuisine, de la rhétorique, de ce qu'il appelle la rhétorique balianophobe, donc effectivement de la phobie des banlieues. Alors premier point, évidemment, il s'agit de définir un ogre de synthèse. En fantasmant un grand gaillard arabe, mal rasé, à capuche, on vient d'en parler. De temps en temps, pour varier un peu, vous imaginez qu'il est noir, nous dit-il. Et important, qu'il soit musclé, agressif et plein de haine envers la France, envers pour ses autres valeurs et passe-temps. Vous relisez le chapitre précédent, donc les questions sur l'islam, des caves, etc. Une fois que vous avez bien en tête votre cliché, vous prenez tous les comportements qui posent réellement problème chez une infime minorité de jeunes de banlieue, et puis vous les attribuez tous à ce grand gaillard que vous avez fantasmé. Ça, c'est le premier point, évidemment, il faut d'abord constituer l'objet. Bon. Le deuxième point, vous ajoutez les préjugés réactionnaires habituels sur les jeunes en général. Pour vous, les jeunes d'aujourd'hui sont décadents, incultes, drogués, violents, paresseux, orduriers. Ils sont du reste abrutis par la télévision, internet, les jeux vidéo et la drogue. Vous saupoudrez votre ogre de synthèse avec ces préjugés sur les jeunes et vous obtenez ainsi le jeune de banlieue, aussi célèbre et réaliste, que la licorne des légendes d'antan. Appliquez votre cliché, troisième point, appliquez votre cliché balianophobe à tous les vrais jeunes de banlieue. Vous décrétez qu'a priori, tous les vrais jeunes de banlieue sont identiques à votre jeune de banlieue, jusqu'à preuve du contraire. Attention, vous risquez d'être facilement pris en flagrant délit quand vos généralisations tournent au grand n'importe quoi. Par exemple, un suppôt du politiquement correct bien pensant pourrait signaler qu'un vrai jeune de banlieue sur deux, par exemple, est une fille. Ou qu'avec plus d'un million de jeunes de banlieue, il n'y aurait plus de voitures dans le pays s'ils en brûlaient tous quotidiennement. Pour éviter ces situations délicates, n'hésitez pas à utiliser deux jokers. Hein. Le premier, dire que c'est vrai, il y en a aussi qui sont bien.
Comme Didier Super le disait, il y en a des biens.
Voilà. Ou que, bien sûr, tous les jeunes de banlieue ne sont pas comme ça. Tant que votre contradicteur ne donne pas les chiffres qui montrent qu'en fait vous généralisez à toute une population des comportements rarissimes, normalement vous devriez vous en sortir. Quatrième point, si vraiment vous devez utiliser des chiffres, alors binonnez-les. Quand on veut déployer ses préjugés en paix, l'ennemi absolu c'est... le pourcentage de la population totale. Appliqué aux jeunes de banlieue, il vous montrera facilement que les généralisations balianophobes sont idiotes. Alors, pour vous tirer de ce piège, n'hésitez pas à utiliser deux autres jokers. Le premier, idéalement, ne comptez jamais les cas. Contentez-vous de raconter des anecdotes isolées, particulièrement effrayantes. Ça suffira pour sous-entendre que l'anecdote correspond à des problèmes courants. Deuxième joker, quand vous comptez les cas d'un problème, surtout ne les rapportez jamais à la population totale. Par exemple, vous citez 89 mosquées infiltrées par les intégristes. Mais surtout, vous ne précisez pas que ça représente moins de 4% des mosquées et salles de prière de l'islam français. Cinquième point, utilisez un langage codé pseudo-culturel pour pouvoir être raciste en toute liberté. Ne dites pas que selon vous, les blancs sont submergés dans les cités. Ça, ce serait vraiment trop visiblement raciste. Parlez plutôt des Français de souche. Ne dites pas que vous avez un problème avec les jeunes arabes des cités. Ça serait trop manifestement raciste. Dites plutôt qu'il y a un problème d'incompatibilité entre l'islam et les valeurs républicaines, qui se pose d'ailleurs surtout dans certains quartiers. Voilà. Ne dites pas qu'à votre avis, une guerre civile entre les blancs et les jeunes arabes ensauvagés des cités est inévitable. Ça serait trop ouvertement raciste. Parlez plutôt de vos craintes d'une intifada des banlieues et comparez les cités françaises à la bande de Gaza.
Ce qui est rigolo là, dans ta citation, c'est qu'en fait, on voit que ce mec, il sort malgré tout du... En fait, il entre plus ou moins en guerre contre la représentation qui était construite du jeune de banlieue, entre guillemets, par les journalistes les intellectuels médiatiques français.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'il attaque uniquement ça, en fait.
Ouais, bien sûr, tout à fait.
La représentation médiatique,
alors,
telle qu'elle est donnée.
Il commence par ça, et après, évidemment, il va
élargir.
Il va aller essayer de se renseigner un petit peu.
Oui, ouais, d'accord.
Donc, ça, c'est le début. Je le donne parce qu'il est quand même savoureux, et puis pour donner une idée de l'efficacité du propos. Et donc, alors bon, pour terminer sur ce point, là, sur le langage pseudo-culturel, vont plus largement vous remplacer systématiquement l'expression brute et directe de votre racisme par des expressions qui sont des périphrases pseudo-culturelles, les Français de souche pour dire les Blancs, Islam pour dire les Arabes, et ainsi de suite. Alors ensuite, il y a plein d'autres techniques courantes, d'ailleurs, de rhétorique pour éviter un débat rationnel, ce qui est évidemment l'enjeu. Alors, la victimisation, d'abord. Mmh. Quand bien même vous seriez invité un peu partout dans le paysage audiovisuel, plaignez-vous du politiquement correct qui vous censure, qui vous empêche de vous exprimer. Vous prendriez ainsi la posture avantageuse du combattant de la liberté d'expression défendant des vérités qu'on nous cache.
Alors ça, c'est Zemmour, Finkielkraut, bon, Enco, bon, ils le font tout le temps.
Et ça crédibilisera à tort ou à raison tout ce que vous direz sur le fond. Alors ça, c'est le premier point. Victimisation. Mmh. Deuxième point, l'exagération, bien sûr. Par exemple, si on vous objecte que confondre les banlieues avec la bande de Gaza est un peu à côté de la plaque, hein, prétendez que votre contradicteur ne voit aucun problème d'insécurité dans les banlieues. La généralisation, alors vous le faites déjà, hein, en voyant tous les vrais jeunes de banlieue comme votre ogre de synthèse, mais vous pouvez aussi le faire avec tout problème constaté dans les cités. Des voitures brûlées deviendront ainsi les voitures qui brûlent. Les faux préliminaires, si jamais votre contradicteur admet que votre description des jeunes de banlieue est réaliste sur les constats, déduisez-en abusivement qu'il manque de cohérence s'il n'adhère pas aussi à vos propositions de réforme réactionnaire. La fausse évidence. À chaque fois que vous n'avez aucune preuve de l'énormité que vous lancez, dites quelque chose du genre « on sait bien que » ou « il est évident que » et ainsi de suite. Le vocabulaire connoté. Faites exprès d'employer aussi souvent que possible des mots qui mettent les partisans de l'ordre et de l'autorité de votre côté, par association d'idées positives. Par exemple, glissez fréquemment dans vos propos les mots « ordre »,« autorité »,« sécurité »,« assistana », »,« repentance », ainsi que les expressions « perte de valeur » et « culture de l'excuse ». Ça sous-entendra que quiconque vous contredit est contre ce système de valeurs tout entier. Le choix caricatural. Ne laissez à votre contradicteur que le choix d'être d'accord avec vous ou d'accord avec une position indéfendable, ce qui revient au même. En particulier, expliquez que soit il est d'accord avec votre vision des banlieues, soit il est dans le déni total de la réalité de terrain. Sans y avoir vous-même mis les pieds, ça va de soi. Variante, si jamais votre contradicteur explique que sur le terrain, les vraies cités ont des problèmes de délinquance et de criminalité, mais ne ressemblent pas à la bande de Gaza pour autant, exigez qu'ils déménagent en banlieue immédiatement, si c'est aussi bien que ça d'y vivre. Vous sous-entendrez ainsi que c'est un hypocrite. La rafale de clichés, bon, on continue, plus la discussion s'arrête sur un de vos clichés baïanophobes, plus un contradicteur a de temps pour déconstruire ce cliché et démontrer qu'il est complètement idiot. Donc vous changez de sujet aussi souvent que possible dans la conversation pour ne pas laisser à l'adversaire le temps de démontrer la vacuité de vos théories. L'argument d'autorité, alors là c'est effectivement un spécial big up à Finkielkraut évidemment. Citez un maximum de noms prestigieux de penseurs, de personnages historiques, ça donnera l'illusion que votre propre réflexion est au même niveau que la leur et s'inscrit dans leur prestigieuse continuité. Il est en effet plus facile d'imposer un message banalement réactionnaire et raciste en invoquant Hobbes, Diderot ou Tocqueville. L'excommunication, dernier point, vous marquez un point décisif si vous arrivez rapidement à répéter en boucle les expressions suivantes pour répondre aux objections de votre contradicteur. Alors, bien-pensance, politiquement correct, pensée unique et SOS racisme. Une variante encore plus malhonnête intellectuellement parlant consiste à attaquer votre contradicteur sur sa propre personne, notamment si par chance il vit lui-même dans un quartier agréable d'un centre-ville, attaquez-le là-dessus, sur sa légitimité à parler des banlieues. Et dans le pire des cas, si vraiment vous ne parvenez pas à prendre le dessus, insultez votre contradicteur ou exigez en boucle qu'il se taise. Voilà. Donc là, tu as effectivement un résumé, bon, qui encore une fois est simplement agréable à lire. Hein,
moi, ce que je me demande, pourquoi est-ce qu'il ne bosse pas à Crimet, ce gars-là ?
Ah ben là, il y a une partie, effectivement, une partie un peu à Crimet sur ces démontages-là. Mais son propos, ce n'est pas simplement de s'attaquer, si tu veux, aux rhéteurs réac et racistes. Hein. Après, l'idée, c'est effectivement d'aller voir comment ça se passe. Alors, le premier chapitre, c'est effectivement sur les jeunes de banlieue dans les médias. Alors, ça, c'est effectivement un aspect. Critique qui est important, donc je termine juste sur ce point-là. Les jeunes de banlieue dans les médias, il dit que la plaie en fait, du traitement médiatique, alors en plus de la connerie ambiante des journalistes eux-mêmes, évidemment, qu'il ne faut jamais sous-estimer, c'est une méthode de travail qui consiste tout simplement en fait, à programmer les sujets avant que l'événement ne se passe. C'est-à-dire que tout reporter qui part couvrir un événement en banlieue en fait, a évidemment un cadrage d'angle qui lui est fixé par sa rédaction avant d'y avoir foutu les pieds. Et le plus gros du problème, c'est non seulement ce cadrage, mais aussi la méthode qui consiste en fait à avoir un certain nombre de contacts préétablis en banlieue, ce qu'on appelle les fixeurs, qui sont en fait les interlocuteurs en fait du journaliste pour n'importe quel sujet. N'importe quel sujet. Donc c'est toujours les mêmes qui vont effectivement être contactés parce qu'on sait que c'est des bons clients et parce qu'on sait qu'ils vont dire ce qu'on attend qu'ils disent. Et tout reportage, ou 90% des reportages qui sont faits sur quelques phénomènes, que ce soit en banlieue, fonctionnent de cette manière-là, c'est-à-dire avec un cadrage qui est préparé à l'avance par une rédaction de centre-ville, et avec des interlocuteurs, des vrais de banlieue, qui sont en fait ce qu'on appelle des fixeurs, c'est-à-dire des gens déjà connus d'avance, parce que...
Moi j'ai pu l'observer dans mon lycée, où la presse campe assez régulièrement, et ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'en règle générale, par exemple, je sais pas moi, tu mets un journaliste en présence de 25 jeunes de banlieue, à la fin des deux heures, tu peux être sûr qu'il a interviewé au moins une personne, c'est la fille voilée. Ça rate jamais. C'est elle qui est citée ensuite. C'est assez formidable. Les autres, non, ils n'y ont pas droit. Bon, on va passer un peu de musique pour arrêter de rire.
La musique de jeunes.
Mais c'est pas trop tôt. Je croyais que t'arriverais jamais.
C'est comme ça que je commence. Immonde, nuisible, hostile, yeah. C'est comme ça que je commence, avec l'intention de tout m'écraser la première séance. Bouge pas, t'es sur la bonne fréquence, apprécie la séquence et la force de mon éloquence. On soigne la performance pour que t'attaches plus d'importance au message caché derrière les assonances. Bien sûr qu'il y a de l'insolence dans mes textes, vu le contexte, c'est devenu un réflexe. Ici y a pas le soleil de Provence, ni de romance, nos histoires se terminent plutôt sur la potence. On fait de la résistance dans tous les sens du terme. On produit le son qu'on aime, on traite pas des mêmes thèmes. Ouais, moi je paierai depuis mes 13 piges, loin du prestige. Toujours avec le même kiff. On sera pas potes, t'es venu faire le pit. Yeah, reste à la porte si tes paroles sont sexistes. J'suis là en bas, grimper ça me donne le vertige. Tu me trouveras toujours au même endroit, à dire ce que j'pense, sans langue de bois. Et tant pis si elle t'offense, ma manière de voir, pas là pour plaire à la presse ou au grand public. Chaque texte emmerde la République, il les préfère plus lisse, histoire que ça t'endorme. Moi j'rappe pour les puristes, tant qu'il en reste encore.
Moi j'rappe pour les puristes, tant qu'il en reste encore.
Moi j'rappe pour les puristes, tant qu'il en reste encore.
Moi j'rappe pour les puristes, tant qu'il en reste encore.
Que crasse, scratch pour les puristes, qu'il en reste encore.
Yeah.
Ouais. C'est comme ça que je commence.
Ouais.
DJ. Que crame la plume. On s'occupe du bon son. Trahant à la prod. Yeah. On s'en cogne d'être à la mode.
Do the underground.
C'est qu'un autre monde est possible.
Le pouvoir au peuple, c'est ça l'idée.
En attendant, je reste
immonde, nuisible, hostile.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit donc pour sa deuxième partie avec Jean-Mathias, José Oplatine et moi-même Michel. Jean-Mathias ce soir nous parle d'un livre de Thomas Guénolet, Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants, qui a été publié, donc un livre qui a été publié au bord de l'eau. Et vous venez d'entendre La Plume et Didi Kekra pour un morceau qui s'intitule Première Séance. Et auparavant, je ne vous l'avais pas dit quand l'émission a commencé, vous aviez entendu en ouverture un morceau de Cazet, quand les banlieusards sortent. Voilà, donc on reprend avec le livre de Thomas Guénolet, Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants? Jean-Mathias.
Ouais, alors on a commencé un petit peu l'émission en expliquant comment il démontait la construction médiatique débile d'une espèce de jeune de banlieue ogre moderne là. Je voudrais dire quand même un peu maintenant quelques mots sur le contenu du bouquin, parce que c'est pas un bouquin de critique des médias hein, ou de critique de stéréotypes médiatiques. Il fait ce boulot là un petit peu au début, mais après ce qui l'intéresse c'est effectivement bon de voir un petit peu sur tel ou tel aspect du stéréotype ce qu'il en est voilà dans la réalité comme on dit parfois. Et encore une fois, j'insiste sur le style d'écriture que je trouve particulièrement efficace. Je vais donner comme ça quelques exemples. Deuxième chapitre, en fait, il est intitulé « La langue de Molière ». Et alors c'est évidemment une analyse bon, un peu rapide, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais surtout toutes les critiques qui peuvent être faites voilà, de cette espèce de sabir absolument incompréhensible, agressif, jargonnant, argotique, etc. Des jeunes qui sont plus capables d'écrire qu'en SMS, etc. etc. Bon, enfin, ce qu'on entend un peu à longueur de temps. Et donc en fait, il a un certain talent pour illustrer comme ça des espèces de clichés, mais en fait il ne va pas taper que sur les clichés attribués aux jeunes de banlieue, il tape aussi sur les clichés de l'éthique de langage en fait des réacteurs. Donc il s'attache au truc, la langue de Molière. Ah, la langue de Molière. Alors ça c'est intéressant, la langue de Molière, parce que il nous rappelle quelque chose qu'effectivement qu'on oublie, qu'on ne sait pas, qu'on ignore. C'est que c'est qu'au fond, alors c'est, je lis là, je suis page 50, hein, du temps de Louis XIV et de Molière, l'accent normal et courant dans le bassin parisien, y compris dans les plus hautes sphères du pouvoir et de la culture, correspondrait à peu près aujourd'hui à l'accent québécois. Par ailleurs, les éditions actuelles des pièces de Molière sont en réalité des traductions en français moderne du texte d'origine. Et à tous ceux qui invoquent la langue de Molière pour dénigrer l'argot des jeunes de banlieue, je propose donc le petit exercice ci-dessous à faire chez soi. Alors, allons-y. Dis, d'abord, lisez à haute voix, d'une seule traite et avec un très fort accent québécois, ce que je suis absolument incapable de faire, hein, cet extrait du texte d'origine d'une pièce de Molière. Alors, je fais la lecture, vous rajoutez l'accent québécois parce que je ne sais pas le faire. C'est pas évident. Oui, c'est-à-dire qu'elle est enflée partout et elle indique ses quantités de sériosité qu'elle a dans le corps et que son foie, son ventre ou sa rate, comme vous voudrez l'appeler, au glieux de faire du sang, ne fait glieux plus que de lieux. Elle a le deux jours l'un, la fièvre quotidienne avec des lassiludes et les douleurs dans les mufles des jambes. On entend dans sa gorge des flumes qui sont tout prêts à l'étouffer. Parfois, il lui prend des syncoles et des conversions que je crayons qu'elle est passée. J'avons dans notre village un apothicaire révérencé parler qu'il y a donné je ne sais combien d'histoires, ce qui m'en coûte plus d'une douzaine de bons écus en lavement, vous déplaise en apostume, qu'on lui a fait prendre en affection de jacinthe et en portion cordale. Mais tout ça, comme dit l'autre, n'a été que de longans miton-mitaines. Il voulait l'y bailler d'une certaine drogue que l'on appelle du vin à méthyle, mais j'espère franchement qu'on l'envoyait à Patresse et l'indique ses gros médecins tuons je ne sais combien de monde avec cette invention-là.
Voilà, c'était du Molière, messieurs, dames.
Ça, c'est du Molière dans le texte. Alors, il continue. Ensuite,
avec l'accent québécois, il faudrait le faire.
Avec l'accent québécois, que je n'ai pas fait. Ensuite, faites la même chose avec cet extrait de la chanson de rap français « Qu'est-ce qu'on attend ?» En remplaçant l'accent québécois par le phrasé de ses interprètes, j'aurais pas la prétention de le faire non plus, Joey Starr et Kool Shen du groupe de rap NTM. Où sont nos repères ? Qui sont nos modèles ? De toute une jeunesse, vous avez brûlé les ailes, brisé les rêves, tari la sève de l'espérance. Oh, quand j'y pense, il est temps qu'on y pense, il est temps que la France daigne prendre conscience de toutes ses offenses, fasse de ses hontes des leçons à bon compte. Mais quand bien même la coupe est pleine, l'histoire l'enseigne, nos chances sont vaines, alors arrêtons tout plutôt que cela traîne, ou ne draine même encore plus de haine, unissons-nous pour incinérer ce système. Enfin, là, c'est Guénolé qui parle, demandez-vous de quel exemple votre propre façon de parler français est la plus proche. Qu'il s'agisse de la syntaxe, du vocabulaire ou de l'accent, la langue française par Alain Finkielkraut, parlée par Alain Finkielkraut et autres baïanophobes est en réalité beaucoup plus proche de celle de NTM que de celle de Molière. Voilà, alors c'est des petits exercices comme ça que je trouve assez savoureux.
Et en l'occurrence, la langue écrite des journalistes est souvent beaucoup plus pauvre que la chanson que la Qu'est-ce qu'on attend pour mettre le feu
que de NTM. Qui mérite d'être lu, effectivement, parce que quand vous lisez en texte écrit, bon, bref.
Bah, Kool Shen et l'autre ont pris beaucoup de rides et pas que des bonnes, mais leur texte, lui, garde une certaine actualité.
Se maintient. Donc ça, c'est pas sur la langue de Molière, effectivement, c'est toujours savoureux. Alors, d'autres moments de bravo un petit peu stylistique, je trouve. Alors, c'est un autre chapitre qui est consacré, évidemment, à l'incontournable islam des banlieues. Voilà. Alors, le chapitre commence comme ça. Donc, vous avez dit islam des banlieues, c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors, le chapitre commence comme ça. C'est une religion qui est vieille de plusieurs siècles. Elle est née dans des contrées lointaines, orientales, avant d'arriver en France. Ses textes les plus sacrés font l'objet de multiples interprétations par ses théologiens, ses clergés et ses fidèles. Interprétés au pied de la lettre, ça donne un intégrisme archaïque et barbare. Mais fort heureusement, l'écrasante majorité des fidèles suivent une lecture moderne. En fait, la norme parmi les fidèles, c'est de ne connaître que quelques règles basiques de la pratique du culte et quelques bouts de passage des textes sacrés. Génération après génération, ils pratiquent et ils croient de moins en moins. Cette religion est hélas extrêmement sexiste, avec une répartition des rôles entre hommes et femmes qui fait des secondes des dominés. Elle est également homophobe, ne tolérant les homosexuels que s'ils font abstinence ou, au minimum, se font discrets. Sa règle d'or morale est belle et simple, tu ne dois jamais faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Point.
Oui, c'est le christianisme.
Je veux parler bien sûr du christianisme. Ou de l'islam, nous dit-il, ou du judaïsme, d'ailleurs. Voilà. Donc c'est l'entrée en matière sur, évidemment, le chapitre consacré à l'islam des banlieues. Alors, il avance quand même des éléments. Alors là-dessus, je ne sais pas jusqu'où il faut le suivre, parce que c'est des questions qui sont compliquées, et puis voilà, les chiffres sont difficiles à voir, etc. Mais la thèse qui soutient sur cette question-là, c'est que comme, en fait, la totalité des vagues migratoires qui sont arrivées en France avec des croyances religieuses marquées, eh bien, l'islam ne fait aucune exception à la règle, et que ce qu'on observe, c'est une phase de désislamisation progressive, en fait, voilà, des personnes issues de la deuxième, troisième ou génération d'immigration musulmane. Alors, il cite un certain nombre de chiffres à l'appui. Je trouve que ça mérite effectivement d'y réfléchir, parce que c'est quelque chose qu'on entend très très rarement.
Alors, cette désislamisation d'une majorité pourrait aussi expliquer un retour encore plus radical à l'islam de chez d'autres. Il peut y avoir une logique, la sociologique assez simple.
Ouais. Alors là, il cite un certain nombre d'éléments. Donc après, il faut vérifier. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais il rappelle par exemple que de fait, après la déchristianisation de la France, les enquêtes disponibles confirment que la désislamisation est en marche. Les deux tiers des musulmans de plus de 50 ans, de 55 ans font leur prière tous les jours. Oui, mais moins d'un tiers des 18-24 la font. 4 musulmans sur 10 de plus de 55 ans vont à la mosquée pour la prière du vendredi. Oui, mais c'est moitié moins chez les 18-24. Seule exception, le jeûne du ramadan qui reste suivi à plus de 70%, quelle que soit la tranche d'âge. Cette anomalie statistique du ramadan confirmerait sa réputation d'être une coutume culturelle plutôt qu'un événement véritablement religieux. Un peu comme Noël pour la plupart des gens nés dans le christianisme. La même observation vaut pour les comportements alimentaires. Des habitudes prises jeunes qui ne bougeront pas. Par exemple, quel que soit l'âge, deux tiers des fidèles de l'islam français ne consomment pas d'alcool. Alors, peut-être un mot sur le ramadan quand même, parce qu'il apporte un autre éclairage, en fait, qui est effectivement rarement aussi mis en avant, notamment sur la pratique du ramadan et du jeûne pendant le ramadan, chez les jeunes, justement, de banlieue, mais les vrais jeunes. Et en fait, il apporte un élément dont on ne parle jamais, qui est tout simplement l'économie que ça représente sur le budget alimentaire d'un certain nombre de familles.
Je suis pas sûr de ça.
Alors,
parce que ils font la fête, ils se rattrapent la nuit. Faudrait voir quoi. Je suis pas sûr que ce soit. Parce que sinon, il faudrait que tous les pauvres jeûnent rituellement au moins une fois par an pour faire des économies. Enfin, je sais pas.
C'est sans doute discutable, mais je cherche le passage, c'est dans un autre passage sur la consommation des jeunes de banlieue, donc que ce soit effectivement, et notamment sur les consommations alimentaires. Il insiste quand même effectivement sur un certain nombre de chiffres, y compris la part budgétaire, la part du budget familial, comme on dit, consacrée à l'alimentation. Donc il y a un petit passage sur le fameux manger 5 fruits et légumes par jour. Et avec en banlieue, budgétairement, c'est un slogan qui est une vaste blague, puisque pour une famille d'une cité, le prix moyen des fruits et légumes rend cet objectif tellement hors de prix qu'il en est tristement risible.
Une boîte de petits pois, t'es sûr d'avoir 5 légumes au moins.
Exactement, t'en as 5. Ouais. Les foyers les plus pauvres ne peuvent consacrer à l'alimentation que 5 euros par jour pour tout le foyer. Mmh. C'est par exemple le cas du Clos Saint-Lazare à Stain, en Seine-Saint-Denis. Alors, qui est un cas effectivement très connu et particulièrement significatif là-dessus. Restons sur le cas du foyer particulièrement pauvre des cités, particulièrement, nous dit-il, donc voilà, après, il faudrait sans doute évidemment avoir plus d'éléments. Le matin, les jeunes de banlieue qui y vivent mangent très bien à la maison, lait, confiture, baguette de pain à satiété. C'est lié au tarif des supermarchés du type les 11 baguettes à 4 euros, nous dit-il. À midi, le plus souvent, on ne mange pas, faute d'argent. Parenthèse, sachant que les cantines scolaires proposent le plus souvent deux menus au choix dans nos banlieues, les refus d'aller à la cantine relèvent bien plus, d'après lui, d'un problème de manque d'argent pour la payer qu'une motivation religieuse. Là-dessus, je vais sans doute peut-être un peu vite.
Et puis les jeunes de banlieue qui ne mangent pas le midi, moi j'ai aussi du mal. Je ne sais pas ce que j'observe. Mais c'est plus facile d'observer quelqu'un qui mange que d'observer quelqu'un qui ne mange pas.
C'est aussi vrai. C'est donc par hasard si les plats traditionnels privilégient à la maison ont en commun de très bien caler l'estomac. C'est une ruse courante du pauvre pour couper vite la faim des jeunes. Pour un foyer malien, ce sera par exemple le tiep, un plat à base de riz malien. Et donc il termine en disant par ailleurs, selon le quartier, entre un tiers et la moitié de l'ensemble, cette fois-ci des jeunes de banlieue, vont jeûner pendant le ramadan. Alors effectivement, c'est le genre de truc où on aimerait bien qu'il en dise un peu plus ou un petit peu moins, ou qui donne les éléments. C'est sur ce genre de passage là que. Il est un peu moins convaincant. Reste que donc sur sa thèse, la désislamisation, en fait, il rappelle, alors ça pour le coup c'est une donnée qui est étayée historiquement, c'est que sur les mécanismes de sécularisation des populations issues voilà, de l'immigration, qu'elles soient polonaises, portugaises, espagnoles, etc. On a des chiffres, on a des chiffres hein, sur le rythme, et en fait, il dit que les chiffres, ils sont les mêmes, en fait, pour toutes les confessions religieuses, c'est 4 générations.
D'accord.
Voilà. Quatre générations, il voilà, y a la broyeuse culturelle sécularisante de l'espace français, avec ses spécificités, voilà, bah, fait qu'on a...
Un pays industriel aussi.
Industriel, urbain...
Parce qu'il y a que les États-Unis qui contredisent cette tendance qu'on a pu observer dans les pays industriels avancés à faire reculer la religion, en fait. Donc,
Alors, évidemment, bon, il y a des passages évidemment sur les voiles. Alors, bon, il rappelle quand même, ce qui est évidemment... Bon, alors, c'est pareil, là-dessus, il est parfois accusé d'angélisme, etc. Peut-être qu'il y a une forme d'angélisme, peut-être d'optimisme, ou peut-être voilà, républicain ou borlosien derrière ça. C'est tout à fait possible là-dessus. Voilà. Mais il rappelle, en fait, voilà, sur le port du voile, voilà, toutes les différentes formes de port de voile qui peuvent exister, parce que c'est une évidence, effectivement. Voilà, donc, il distingue, il fait des typologies assez marrantes, voilà, une petite typologie. Donc, le voile en service minimum, comme il appelle, ou alors le voile hypocrite, ou alors le voile fashion, ou alors le voile de la salope. Alors il me dit, il explique, on me pardonnera la brutalité de l'expression, je la tiens directement du terrain. Il concerne une jeune femme ayant eu des mœurs libres pendant l'adolescence et qui, à 20-22 ans, veut se caser. Et dans le contexte lourdement puritain de la cité, elle risque de voir la plupart des jeunes hommes ne pas vouloir s'installer avec elle. Bon, voilà. Le voile contre-culturel, nous dit-il, porté par les jeunes filles en volonté de vengeance, de l'humiliation vécue, selon elle, par les parents en tant qu'immigrés.
Et souvent, les parents ont beaucoup de mal avec... Enfin, les jeunes qui vont dire beaucoup de jeunes femmes portent un voile en opposition avec leurs parents. Ça, c'est... Ouais.
Un certain nombre significatif
que j'ai pu observer.
Et il termine en disant, évidemment, enfin, il y a, oui, effectivement, le voile sectaire. Voilà. Et qui peut aller jusqu'à la burqa avec port du grillage, etc. Message religieux, là, etc. Bon. Rappelons quand même, c'est pareil, les chiffres, voilà, pour donner un ordre de grandeur, que dans le quartier du Clos Saint-Lazare à Astin, en Seine-Saint-Denis, on compte 5 jeunes filles en burqa pour une population totale de 12 000 habitants. Voilà. Donc, alors, il applique.
Quelle menace pour la République ?
Alors, voilà, donc il applique à chaque fois, effectivement, la méthode évoquée au début, c'est-à-dire rapportée au pourcentage de la population totale, systématiquement, pour essayer d'avoir une mesure un peu statistique de ce dont on parle. Bon, alors, passage très intéressant aussi, alors ça m'a surpris, qui concerne les jeunes flics de banlieue. Alors, on va pas commencer à dire du bien de la police en général sur cette antenne. Ça, c'est un peu au-dessus de nos...
Ni sur cette antenne, ni en dehors, on peut pas les connaître.
Bon, bah, c'est un peu au-dessus de nos forces. Mais cela dit quand même, sans dire du bien. Non, j'ai été frappé, lui il le fait pas.
Il aborde un virage, oula, non, attention.
Lui il le fait pas. Lui,
José, coupe le micro, vite.
On voit le son. Il y a un parallèle que lui ne fait pas, mais que moi j'ai fait. Que moi j'ai fait, parce qu'à lecture, alors bon... Encore une fois, un positionnement républicain, machin, il n'est pas du tout anti-flic, il n'est pas du tout, ça c'est clair. Mais j'ai été frappé par un certain nombre de points communs entre des difficultés qui remontent des témoignages qu'il a pu avoir de jeunes flics arrivant effectivement en banlieue, et des difficultés qu'on rencontre en réalité et qui sont finalement du même ordre et qui obéissent aux mêmes logiques dans l'éducation nationale. Voilà. Notamment, alors je vous lis ce petit passage là pour les gens qui ont pratiqué un peu l'institution éducation nationale, ça va sans doute leur parler. Derrière les clichés, nous dit-il, la réalité ordinaire des jeunes policiers de banlieue tient en un seul mot: statistique. Le nerf de la guerre dans la police, c'est la statistique des infractions constatées et résolues. C'est du absolu, total, plaisante une source policière. Quelle que soit la couleur politique du gouvernement, la statistique de la délinquance et de la criminalité doit être positive. Alors, toute ressemblance avec des résultats d'examens nationaux,
à moitié bidonnés,
erronés et fortuites, mais quand même, ça interroge. Dans l'idéal, nous dit-il, elle doit indiquer une baisse des infractions constatées qui pourrait être interprétée par la communication publique du gouvernement comme une baisse de l'insécurité. Bon, blabla, donc tout ça, on connaît. L'exemple typique, hein, voilà, en mentionnant la mauvaise... Alors, au pire, elle doit inclure dans une catégorie d'infractions qui augmente au moins une sous-catégorie qui baisse. Effectivement, c'est un classique, quoi. Voilà. En mentionnant la mauvaise nouvelle, la communication pourra ainsi insérer une bonne dans la même phrase. Exemple typique, c'est une phrase formulée comme suit: les vols ont augmenté, même si dans cette catégorie, les vols de voitures sont en baisse. Bon, voilà. Alors, après, il y a un passage que je trouve très intéressant sur, pareil, la manière, les mutations que, évidemment, ce type d'objectifs gouvernementaux fait subir, notamment à la hiérarchie des flics dans les commissariats. Et là encore, il n'est pas. Ces évolutions ne sont pas très différentes de celles qu'on observe chez la hiérarchie dans l'éducation nationale, l'administrative, etc. Donc, il explique que les jeunes policiers de banlieue touchent des primes aux résultats si leurs statistiques individuelles sont bonnes. Bon, pas encore là dans les lycées ou les collèges, mais ça va peut-être venir. Elles sont cependant sans commune mesure, ces primes, avec celles aux résultats touchées par le commissaire. En ordre de grandeur, cette prime peut équivaloir à une année de salaire d'un gardien de la paix de base et peser entre un tiers et la moitié de la rémunération annuelle totale du commissaire. Ce qui est particulièrement vrai pour le commissaire de banlieue. La relation des jeunes flics de banlieue avec leur commissaire va ainsi beaucoup ressembler à celle qu'entretiennent les directeurs d'hôpitaux publics avec les fonctionnaires hospitaliers de terrain. Le chef a une approche fondamentalement comptable des activités de la maison, et puisque la forte prime à la clé l'incite vigoureusement à atteindre ses objectifs de performance, il tend à jouer contre son personnel pour atteindre ses objectifs. Il est également conduit par les mêmes paramètres à négliger la qualité de service en tant que tel pour se focaliser sur les objectifs chiffrés à remplir, quitte à entrer régulièrement en conflit avec ses subordonnés sur ce thème.
Donc, ce qui fait que dans le 93, dans la banlieue parisienne, en règle générale, on n'a pas de gardien de la paix, on a surtout des forces de l'ordre.
Oui.
C'est
le cas.
Et c'est des cow-boys qui déboulent, tout muscle saillant pour arrêter le jeune de banlieue noir en chaussons qui descend ses poubelles. Observez.
Alors, il rappelle aussi quand même un certain nombre de chiffres sur les temps de formation, sur par exemple aussi la fréquence des exercices de tir. Voilà. En expliquant qu'une fois sortis de l'école, les policiers français sont astreints qu'à 3 séances de tir par an pour se maintenir à ce niveau. Conclusion de Guénolé, à un niveau d'entraînement aussi faible, a priori, ce sont de mauvais tireurs. Bon, ah, c'est peut-être une bonne nouvelle, hein, parce que
pas forcément.
Dans certains cas, mais pas forcément.
Pas forcément.
Pas forcément. Non, pas forcément. Sur le mythe, justement, dit-il, du commissaire bourru, charismatique, que ces hommes idolâtrent dans un climat général paternaliste.
Et viril.
Voilà.
Et moustachu.
Alors, ils disent, pareil, sur la base de témoignages de flics de banlieue, hein, les anciens leur racontent qu'avant, les commissaires soutenaient leurs flics. Ça, c'est pareil, ça m'a frappé du point de vue
On a le même discours parfois, dans l'éducat. Avant, les proviseurs soutenaient leurs profs.
Voilà. Une source trop jeune pour avoir connu cette époque me résume ces récits de vétérans. Ils nous disent qu'avant, quand un flic faisait une connerie, il allait voir le patron et le lui disait. Si c'était pas grave, le commissaire prenait sur lui, mais le prévenait que la prochaine fois, il serait sans pitié. Et si c'était grave, le commissaire en référerait à la hiérarchie, mais en soutenant son flic un peu comme un délégué de classe. Par exemple, quand tu perds ta carte de police, t'as un blâme. C'est grave pour ta carrière, ça te rapproche de la porte du conseil de discipline, tu peux te faire virer. Il y a 10-15 ans, si le patron considérait que t'étais un bon élément, il intercédait auprès de la hiérarchie pour que tu ne prennes pas le blâme. Aujourd'hui, le commissaire typique, il s'en lave les mains. Au moins de problème, la hiérarchie nous coule et nous enfonce, c'est un fait. Voilà. Nous y voilà, on n'est pas soutenu par la hiérarchie. Tous les contacts, insiste Guénolé, tous les contacts que j'ai eu dans la police m'ont répété plusieurs fois cette phrase. Alors, c'est pareil, voilà, ça va vite, il y a témoignages, on va pas pleurer non plus sur tous. Bon, il dit même le système de mutation est tout à fait comparable, c'est-à-dire qu'effectivement, sorti des écoles de police, c'est évidemment les plus jeunes, les moins expérimentés et les plus éloignés des banlieues, c'est-à-dire les jeunes formés en province, qui se retrouvent évidemment sur le terrain avec une espèce de besoin évidemment démesuré sur tout ce qui est l'Île-de-France, puisque c'est là que les besoins sont le plus important. Et donc, il explique par exemple que ça a des conséquences directes, exactement comme effectivement l'envoi de jeunes stagiaires dans les lycées de banlieue. Sur le terrain, je termine là-dessus, les jeunes policiers de banlieue, par manque d'effectifs, se retrouvent rapidement chefs de bord, c'est-à-dire chefs d'un véhicule en patrouille. Il est même courant, dans toute la région parisienne, que de jeunes élèves stagiaires soient chefs de bord. Ça signifie donc que sur 3 uniformes dans le véhicule, le plus gradé a 9 mois d'ancienneté. Symptôme de cette situation en région parisienne, les élèves stagiaires saluent les 2 chevrons des policiers à peine titulaires comme si c'était dégradé. Du reste, depuis 2015, le nombre de bâtiments à surveiller en permanence, ce que le jargon policier appelle les servitudes, a énormément augmenté, ce qui aggrave en plus les problèmes de sous-effectifs chroniques. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Bon, encore une fois, il ne s'agit pas de verser des larmes, mais il y a quand même des voilà.
Ce qui me donne aussi 2-3 indicatifs, trois indications sur les politiques réelles menées par les différents gouvernements, des promesses de sécurité, ceci et cela. On va vous passer un petit morceau de rap pour changer. Y, un nouvel embrasement.
J'ai pas grandi pendant les 30 glorieuses. Plein emploi, connais pas. Moi c'est chômage, crise, pollution, sida. L'identité de la France, d'accord. Trouve-moi un job d'abord. Égalité des chances, mon cul, plutôt raison du plus fort.
Bienvenue à l'abattoir, jeunesse avec ou sans diplôme, à l'avenir aléatoire. C'est pas tous les jours la fête, à part pour les bobos qui croient sauver la planète à chaque fois qu'ils achètent bio. Tous décomposent, brutal retour à Babel. Y'a des rebelles sans cause, mais surtout des causes sans rebelles. Génération débile, conditionnée à se regarder le nombril, à aimer tout ce qui brille. Les sites sur lesquels on surfe, les chaînes sur lesquelles on zappe, nous happent et peu à peu le réel nous échappe. Et c'est toujours les mêmes qui pilotent, et toujours plus d'écart entre les élites et les zilotes. Réduit au rôle de consommateur, électeur, à qui on demande de payer la facture des spéculateurs. Endormis par les experts du système, qui ne comprennent même pas eux-mêmes les discours qui nous tiennent. Emploi des mots scientifiques, des anglicismes pour faire illusion, masquer leur faute et perpétuer la domination. La liberté avec un flingue sur la tempe, l'argent est une religion, et pour beaucoup la bourse c'est un temple. Pour interroger les oracles, pas besoin de la pitié, va faire un tour du côté de Wall Street ou la City. Les intellos, eux, se pavanent sur les plateaux, parlent de sujets bateaux, mais qui se partagent le gâteau. Maudits médias qui réfléchissent à notre place, on a des appris à penser, on sait plus comment faire face. On prend la vie à la légère au lieu d'agir, destruction à grande échelle, le chaos fait que s'élargir. J'suis qu'un boulet pour la France qui gagne, sans boulot, sans ambition et sans plan d'épargne. J'profite de la musique juste pour m'évader, avant les passeports biométriques et les puces RFID. Le futur c'est demain, pas le temps d'être méditatif. L'histoire de l'être humain m'évoque un grand suicide collectif. Derrière les murs de prison où on crève en silence, derrière chaque tour de béton où on pise en freelance, dans les couloirs sordides des hôpitaux psychiatriques, au hublot d'un charter qui repart pour l'Afrique, dans une impasse où un flic teste une clé de bras, au fond d'un commissariat, en plein passage à tabac, derrière les murs de barbelés, des centres de rétention, à la CAF, aux asthétiques ou en détention. La révolution gronde, mais pourra-t-elle déjouer à temps le plan des maîtres du monde? Le plan des maîtres du monde, le plan des maîtres du monde. Si j'ai les dents qui grincent, c'est que le prince vit grâce à un handicap qui attend un nouvel embrasement.
On va pas se laisser pas. Je fabrique du C4 à l'aide d'un bic et d'une feuille A4.
Si j'ai les dents qui grincent, c'est que le prince vit grâce à un handicap.
On va pas se laisser pas. Je fabrique du C4 à l'aide d'un bic et d'une feuille A4.
Handicap qui attend un nouvel embrasement. Embrasement, 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 embrasement.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir donc, qui se poursuit pour sa troisième et dernière partie, dans une émission consacrée à un livre de Thomas Guénolet qui s'intitule « Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ?». Voilà, donc là on a eu un petit passage où on plaignait la maréchaussée de ne pas avoir de moyens pour réprimer efficacement les ogres de banlieue. Voilà, donc alors Jean-Mathias, sur quoi tu voulais poursuivre après avoir plein de nos pauvres Condé.
Ouais, alors voilà, donc une pensée.
Il paraîtrait qu'ils ont même plus de balles.
Voilà.
Oui, ils en ont dépensé tellement dans l'assaut là à Saint-Denis qu'ils avaient épuisé leur crédit de balles.
Mais c'était visiblement déjà une pénurie qui datait d'avant, parce que c'est une des raisons qui explique aussi le manque d'entraînement au tir. Voilà, c'est des restrictions budgétaires. Voilà.
Ah d'accord, comme pour les photocopies chez nous.
Exactement. Voilà. tu le sais pas qu'il a dit. Alors bon, pour les quelques minutes qui restent, du coup, j'invite les auditeurs à aller jeter un coup d'œil sur le livre qui est agréable à lire, encore une fois, je dis. Même si voilà, il y a des choses qui posent aussi des difficultés. Bon, peut-être encore avant d'arriver aux difficultés, des constats. Alors, on l'a accusé un peu là sur la réception à la sortie du bouquin, un peu soit tantôt sur le mode, effectivement, il respecte pas de méthode très rigoureuse. Il a quelques des entretiens en fait. Il parle des jeunes de banlieue, mais finalement lui-même il connaît pas ou d'extérieur. Je trouve que ça c'est un peu c'est pas des critiques recevables. Enfin, moi il me semble que pour vivre et travailler en banlieue, encore une fois, depuis plus d'une décennie, il s'exprime absolument pas comme un ovni. Et puis voilà, il a des... donc ça c'est pas recevable. Après, on l'accuse aussi d'angélisme, alors notamment sur l'islam évidemment, ou de dire que en fait tout ça, l'intégration, elle est finalement largement acquise, etc. Là-dessus c'est pareil, je suis quand partie d'accord avec ces critiques là, en fait, voilà. Donc non, sur le fond, en fait, sur l'essentiel du bouquin, je suis d'accord à peu près avec 90%. Alors, ce qui pose problème, notamment aussi, avant d'en venir au problème, il y a un chapitre qui est consacré à l'antisémitisme des jeunes de banlieue. Et là, c'est tout sauf angélique. C'est tout sauf angélique, c'est-à-dire qu'il commence le chapitre comme ça. Et c'est un constat que je partage, malheureusement. De tous les constats que j'ai faits sur le terrain, c'est sans aucun doute celui que j'ai eu le plus de mal à accepter. Un puissant antisémitisme existe dans les banlieues, spécifiquement chez une partie des jeunes d'origine immigrée récente, provenant de pays où la culture arabe prédomine. Alors, après, évidemment, il donne un certain nombre de précisions, etc., termes statistiques et tout ça, mais de fait, lui, ce qui l'intéresse dans ce passage-là, c'est évidemment la galaxie Dieudonné Soral. Ouais. Et je crois qu'il a raison d'alerter notamment là-dessus. Il termine en disant que... alors, je donne le point parce que je pense qu'effectivement, c'est pas anodin. Il dit « La dynamique soralienne ne doit absolument pas être sous-estimée. » Donc Soral, représente...
Intellectuel multicarte.
Multicarte, paranoïaque, antisémite d'extrême droite.
Qui vend beaucoup de DVD.
Qui est extrêmement suivi sur Internet, ouais. avec des vidéos vues à des dizaines, voire centaines de milliers d'exemplaires, enfin de visions. Donc il conclut son chapitre là-dessus, donc comme quoi il n'est pas si angélique que ça. La dynamique soralienne ne doit absolument pas être sous-estimée. En revendiquant éhontément la dénonciation d'un complot mondial juif, franc-maçon, banquier et ainsi de suite, le tandem de Dieudonné et Alain Soral est l'héritier de Jean-Marie Le Pen comme nouveau chef de l'antisémitisme politique français. Rappelons qu'après des années passées comme le chef d'un groupuscule appelé FN, Jean-Marie Le Pen avait 54 ans lorsque sa trajectoire politique nationale et celle de son parti ont commencé à prendre leur essor. Aujourd'hui, Dieudonné, 49, et Alain Soral, 56, prépare la création d'un parti politique, Réconciliation Nationale. C'est pas... alors bon, c'est toujours difficile de faire comme ça des projections à Madame Irma, mais je suis à peu près d'accord avec ce constat-là, et avec effectivement les ressources et les troupes enrôlables derrière.
Alors j'y mettrai quelques bémols, mais c'est peut-être aussi lié à des positions dans le champ qui sont un peu différentes, mais bon. Malheureusement, c'est des choses, c'est vrai que on peut les...
En chiffres, élément de contexte plus inquiétant, l'antisémitisme n'est pas l'apanage d'une partie des jeunes de banlieue, évidemment. Selon le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme pour l'année 2014, 37% des Français pensent que les Juifs ont trop de pouvoir en France, 56% qu'Israël compte plus pour eux que pour la France, et 63% qu'ils ont un rapport particulier à l'argent. Bref, l'antisémitisme est en train de renaître dans la population française, dans son ensemble, et il faut regarder ce fait bien en face. Voilà. Rappelons d'ailleurs, au ravi de la crèche du Front National des Diabolisés, qu'ils oublient comme un détail, l'écrasante majorité des cadres du FN de Marine Le Pen était déjà là, sous Jean-Marie Le Pen. Ils avaient donc tous rejoint, en connaissance de cause, un parti politique antisémite. Bon, voilà, donc c'est là-dessus. Alors après, là où évidemment je ne le suis plus du tout, voilà, c'est que l'avant-dernier chapitre cite des passages de rap tout à fait intéressant, et la conclusion, alors là, effectivement, est d'un lyrisme républicain qui, moi, me laisse un peu indifférent.
Il appelle à voter François Bayrou.
Alors, il appelle pas à voter particulièrement, mais voilà, bon, il monte patte blanche avec le dernier bouquin de Todd qui tapait sur les manifs de soutien à Charlie. Bon, pour des raisons, d'ailleurs, qu'il faudra qu'on discute d'un jour, parce qu'il y a à boire et à manger, mais il y a aussi un peu à manger dans ce qu'il raconte. Et puis, il nous fait un chapitre sur le mode, finalement, le républicain. C'est génial, et en fait la plupart des jeunes de banlieue sont prêts à rentrer, et puis on a besoin d'une religion civile, de valeurs communes, etc. Donc là il y va carrément. Donc la conclusion, on prend pas. En regard de cette conclusion, il y a la dédicace du livre qui est dédiée à Ziad et Bouna. Donc mort pour rien tous les deux, alors on me dirait ça mange pas forcément de pain, mais enfin tous les livres sur les banlieues sont pas dédiés à Ziad et Bouna. Donc c'est un petit peu c'est un peu l'ambiance de ce livre, bien écrit, efficace, assez percutant, qui ouvre effectivement des pistes sur base de témoignages, des données aussi factuelles intéressantes, mais bon, en général à titre personnel, moi je suis pas forcément demandeur de littérature sur ces questions-là, puisque de pratique, j'ai l'impression d'avoir effectivement suffisamment de d'informations là-dessus. Ça m'a intéressé, je pense que ça peut intéresser beaucoup de lecteurs. Et dans
c'était
le genre...
un livre de Thomas Guénolé, Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ?
La réponse est en non.
La réponse est en non, vous le savez maintenant. Aux éditions Le Bord de l'eau. Et on va terminer sur un morceau de Kenny Arcana, Dur d'être optimiste.
S'il répit existe, bien sûr que j'aimerais donner de la joie. J'aimerais donner, j'avoue, autre chose que de la tristesse ou de la colère, mais pas le choix. Mon angle se déverse et mes vers se trament dans mes larmes. J'écris parce que j'ai pas appris à parler, pas appris à pleurer, parce que j'explose, parce que j'ai que ça dans la vie, parce que la destruction est mon extol. De toute façon, c'est ça ou rien, c'est ça ou la vie. M'excuse, mais déjà tué par le système. Des fois, c'est plus rien à foutre. J'me perds dans les pages de ma vie, dans les poches du souvenir, les pièges de la haine. Et j'vois les sous-nuire, les nerfs des miens en boissant. Et on apaise l'ennui et chaque chagrin dans l'illusion joviale de la boisson. Vodka pomme, point shit, varé comme en Hollande, gang trafiqué. Et bienvenue dans la paranolande. Merde, j'aimerais arrêter le temps. Car plus il passe et plus ça empire dans nos cœurs et dehors en même temps. J'rêve tant de paix et de sérénité qui évoque deux utopies. Babylone était le paradis. Alors l'enfermement, comme un d'air puis j'ai connu l'enferme. Ben c'est triste et glauque. Foyer drogue matrice et bloc. Cap qui déglingue, rue qui schlingue. Ça m'attriste et j'troque. Cette salle t'es pour un mic. Hein. Restant intègre, j'oublie pas les aléas de ma vie. Non, ma vision reste impec et j'm'en tape. S'il y a pas de technique dans mon rap, j'nique les artifices, mec. J'déballe juste ce qui me traque au fond de moi. Joue en faillite, douleur en voilite. La rage en voile, système carotte et paix invalide. Jeunesse énervée, victime d'incompréhension. Peuple sous tension, on sait égo, ça manque d'attention. Putain de monde à vide. Mais bon, tu connais déjà mon avis. Système noyé dans l'illusion, où seul les démons naviguent, nous manipulent. Et ça me rend taré car je veux pas te mettre. Alors laisse-moi gueuler que j'emmerde l'ordre moral, mec. La hiérarchie et leur grade, toutes leurs valeurs crades. Est-ce qu'ils ont volé au peuple accueillant harmonie brade. Et rien à battre de toutes leurs lois à la con, c'est hardcore. S'ils croient éteindre un feu avec l'essence coupée à l'alcool, illogique. Bien loin des pensées idéologiques, cerveau pollué, tous nourris à la bouffe biologique. Télé mensongère, manipulation des médias. Vive l'évolution du pain, plus rien ne va dans l'immédiat. Travailler, travailler, comme un esclave s'enchaîne pour Babylone. Menteur conquérant qui s'appuie sans gêne sur les pays du tiers-monde pour construire ses tours. Arnaque des matières premières et ça sans faire de détour. Mots qui sonnent faux comme diabolisation. Multinationale, FMI, G8 et mondialisation. Focalisation sur la terre maudite. USA et ESA leur fera tout drôle le jour où la roue tournera dur. D'être optimiste en regardant l'état du monde, en regardant l'état de nos vies où font seules les ratures monde. On évolue comme dans un gribouillage fait de brouillage et de rouage qui nous tuera par manque de raison et de courage dur. D'être optimiste en regardant l'état du monde, en regardant l'état de nos vies où font seules les ratures monde. Pris à notre propre piège comme on n'a pas idée. L'apocalypse commence dès que l'homme a perdu son humanité. Et le processus est en route. Regarde le monde, regarde nos vies. C'est à l'époque, hein, gouverné par l'argent et le mensonge. Dur d'être optimiste pour la suite. Car tous prisonniers d'un système destructeur. Pris à notre propre piège. L'individualisme, l'ignorance, l'orgueil et l'avidité. C'est ça qui va nous tuer. C'est pour tous ceux à qui on a fait croire, qu'il valait rien. Les vilains petits canards qui se battent pour devenir des cibles.